Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aligre FM 93.1. Nous sommes jeudi, il est 10h, c'est l'heure de votre magazine littéraire Au fil des pages, présenté par Nadia Etayeb aujourd'hui. Mon invité est Guillaume Viry, comédien et écrivain. Après L'Appelé, récit poétique hanté par les fantômes de la guerre d'Algérie, il nous offre un récit poème dans lequel résonne la voix d'Ita, juive polonaise, vouée à l'errance et à l'exil, dans un monde où résonne le bruit sourd des pays qu'on enchaîne. C'est l'histoire d'Ita, jeune polonaise qui grandit à Sieradz, où elle est née avec son père, Mendel, marchand de harengs, et sa mère, Pessa. Ils sont pauvres, ils sont juifs, dans un monde où résonne le bruit des bottes. Ita rêve de partir avec Joseph, fils de Jacob, pour découvrir Lodz, Varsovie ou Gdansk, et voir la mer. Mais après la mort de ses parents et le départ de Joseph et Jacob en Amérique, elle se retrouve seule, emportée au hasard des routes, de Liège à Bruxelles, puis Paris, à l'aube de la rafle du Veldiv. Guillaume Viry nous offre une histoire incarnée, dans un style sobre et puissant, où vibre dans les silences de la page l'indicible d'une histoire que notre actualité fait résonner avec une rare intensité.
Un jour, on demanda à un homme de raconter une histoire. L'homme répondit : une histoire, il faut qu'on la raconte de telle sorte qu'elle agisse et soit un secours en elle-même. Puis il fit ce récit. Mon grand-père était paralysé. Comme on lui avait demandé de raconter quelque chose, il raconta l'histoire de son maître. Il se mit à raconter comment, lorsqu'il priait, il sautillait et dansait. Puis, pour bien montrer comment son maître faisait, mon grand-père, tout en racontant, se leva de sa chaise de paralysé. Il se mit debout, sautillant et dansant lui-même. À dater de cette heure, il fut guéri. Si un jour le monde veut te changer en statue de sel, chère Ita, si un jour le monde entre dans sa folie blanche voulant te rendre paralysé, ce jour-là, ne l'oublie pas. Raconte, dit Mendel, ne beuglant plus. Raconte, dit Mendel, des larmes lourdes vidant leur sel le long de ses maigres joues. Raconte, et tu verras, Ita, dit mon cher père, le sel qui recouvrait l'écorce de ta peau s'éparpillera par le vent. Alors tu sautilleras, ma chère Ita. Tu danseras. C'est l'histoire du père. La seule histoire, je crois. Celle des jours durs, à ne pas vendre une seule écaille de hareng.
Bonjour Guillaume Viry et merci pour cette lecture qui ouvre, une fois n'est pas coutume, cette émission et qui nous permet d'entrée de jeu de faire entendre un style, une langue très incarnée qui vous caractérisait déjà dans la plaie dont nous avions parlé ici même dans ce studio il y a un peu plus d'un an je crois. Une première question, comment êtes-vous passé de la plaie sur lequel dans lequel flottaient les fantômes de la guerre d'Algérie, à l'histoire d'Ita et à l'esprit de sel, titre, magnifique titre et terrible en même temps, donné à ce deuxième poème récit.
Bonjour, là, merci de m'inviter à nouveau. En fait, j'ai écrit les deux textes presque dans le même moment, dans un même... l'un à la suite de l'autre, mais dans un même mouvement. Et l'esprit de sel, c'est venu au départ d'une... Je suis allé 35 rue des Rosiers, en fait, où habitait le personnage sur la centrale du récit, Ita. Je suis allé là il y a quelques années, juste avant d'écrire, et il faisait très beau, c'était l'été, il faisait chaud, il y avait beaucoup de touristes dans la rue. Des roses accrochées au-dessus, comme ça, de la rue. Et j'étais pris par une émotion d'imaginer, voilà, Ita, au 35 rue des Rosiers, au quatrième étage, 80 ans à peu près plus tôt, et enfermé finalement dans cette petite chambre, comme ça. Donc, c'est parti de cette émotion-là. Et de la lecture du livre de l'historien Laurent Joly, en fait, qui évoque le personnage dont je m'inspire, on peut dire, Ita Zitenfeld. Le livre de Laurent Joly, c'est La rafle du Veldiv, un livre vraiment très fort, un livre d'historien, quoi, documenté incroyablement, et où il évoque l'exil d'Ita Zitenfeld, en fait, de Paris à la Belgique, de la Pologne à la Belgique, à Paris. Mais c'est un récit évidemment très lacunaire et seulement, en fait, il repose sur des faits, des documents administratifs qu'a retrouvé Laurent Joly, quoi. Les demandes de papiers, les refus ensuite, enfin voilà. Et donc après, moi, j'ai écrit dans les trous, dans tout ce qu'on ne savait pas, en fait, de ce personnage, de cette femme, de cette vie comme ça d'exil. Et on ne sait pas grand-chose, il y a très peu de traces. Oui, à nouveau, c'est vraiment des traces de l'administration française ou belge, voilà. C'est un peu, j'ai pas du tout pensé en écrivant, même si c'est un livre que j'avais lu évidemment avant, mais ça m'a fait, finalement maintenant, avec le temps, à la démarche, pardon, sans absolument me comparer du tout, de Patrick Modiano avec Dora Bruder, en fait.
Oui, on pense à ce roman, effectivement, quand on vous lit, mais c'est pas tout à fait, et même pas du tout, la même démarche.
Non, la
démarche.
Format après n'est pas... Mais en tout cas, lui aussi est parti de quelques petites traces, c'était dans un journal, quoi. Il y avait trois lignes sur Dora Bruder. Et moi, je pars aussi voilà, de traces très fines pour après inventer et donner vie, rendre grâce à ce personnage. Ouais.
Alors, d'Ita Zitenfeld, on passe à Ita, qui devient un personnage et qui devient surtout une voix. C'est une constante de vos deux récits. Que de faire une place très grande à l'oralité. Ce sont des textes faits pour être lus dans le silence, mais ce sont aussi des textes faits pour être dits dans une langue avec un souffle intense qui vibre et qui donne vie véritablement au personnage. Pourquoi ce choix ?
C'est... Je sais pas, c'est vraiment là une sorte de profonde nécessité de que le personnage parle, en fait, ouais, s'exprime, qu'on l'entende vraiment, quoi. Comme il n'a pas pu le faire, j'ai l'impression, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que d'être vraiment à l'intérieur, enfin oui, dans...
De l'incarner.
Que ça soit totalement incarné, oui, tout à fait.
Et il y a quelque chose aussi du comédien, du rapport du comédien que vous êtes à la langue faite pour être incarnée, dite.
Oui, oui, non, mais c'est sûr que j'ai beaucoup lu de théâtre, oui, donc c'est quand même, c'est ce que j'ai lu d'ailleurs quasiment en premier. Oui, Jean-Luc Lagarce, comme ça par exemple, qui est des voix aussi, c'est des voix, oui, voilà. Et ça me plaît beaucoup, oui, quoi, qu'on puisse à la fois lire le texte tout seul dans sa tête et en même temps qu'il puisse être dit et joué, quoi. Et là, on a commencé un petit peu des rencontres, voilà, en librairie. Il y a Maud Villers, une comédienne qui a lu par exemple des extraits, et c'est sûr que c'est quelque chose, ça marche. Enfin, c'est, oui, le texte prend encore une autre ampleur. Ouais.
Alors, Ita, vous l'avez dit, on l'a dit, elle grandit dans une petite ville de Pologne qui s'appelle Sieradz, où son père Mendel vend des harengs. Il y a dans cette condition de pauvreté et ce rapport à la vente des harengs, quelque chose d'essentiel qui fait jaillir le sel. L'idée du sel, c'est-à-dire que le roman s'ouvre, alors je ne sais pas si on peut parler de roman, mais c'est une vaste question que je n'ai pas tellement envie de soulever aujourd'hui. C'est un texte qui a l'immense mérite d'exister et c'est tout. Il y a cette question du sel qui pétrifie, qui est au cœur de votre texte dès le début, on vient de l'entendre aussi, et jusqu'à la fin et jusque dans le titre.
Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de phrases avec le sel. Enfin, on a plein de phrases qui viennent en tête, effectivement, comme dit le sel qui pétrifie, le sel de la vie, le sel. Enfin, il y a plein d'expressions et c'est arrivé assez naturellement. En fait, c'est arrivé quand même par le titre d'abord, en fait.
L'esprit de sel.
L'esprit de sel. Alors peut-être que, oui, sans rien dévoiler, je peux, de l'esprit de sel, en fait, de manière concrète, ça, c'est de l'acide chlorhydrique. Bon.
C'est donc quelque chose qui pétrifie.
Oui, voilà, ouais. Qui même, si on l'absorbe...
Tue,
voilà. Et en même temps, oui, il y a cette déclinaison comme ça qui est vraiment pas consciente au début, dans l'écriture. Après, je me suis bien rendu compte, évidemment, qu'il y avait beaucoup de sel, mais que ça revenait, voilà, avec la mer, effectivement, c'est harangue, un univers. J'aime bien qu'il y ait assez peu d'éléments dans un texte, en fait, et que ça devienne des motifs qui reviennent. Et tout d'un coup, on voit écrit peut-être le mot « sel » ou « esprit de sel », parfois on le voit écrit, mais surtout le mot « sel ». Et j'ai l'impression que le son résonne différemment. Tout d'un coup, c'est autre chose selon à quel endroit il est dans la phrase et à quel moment du récit, en fait. Donc, j'essaie de faire entendre les mots, quoi.
Ita est à l'aube de son adolescence lorsqu'on l'entend pour la première fois, à peu près. Elle aime ses parents, elle aime sa ville, elle aime Joseph. Elle rêve de partir, comme souvent à cet âge. Et en même temps, ce désir de mouvement est menacé en permanence par la pétrification de l'histoire en marche et des morts qui surviennent autour d'elle, celle de ses parents et qui la laisse seule. Il y a dans votre récit aussi, me semble-t-il, vous me direz si je me trompe, cette idée d'une vie, d'un départ permanent, d'une marche qui, au fond, lutte contre une mort annoncée, contre une pétrification annoncée.
Oui, tout à fait. Oui, c'est cette lutte-là, en fait, que j'essayais de...
Un peu comme Daphné et Apollon. Moi, j'ai pensé, en lisant votre texte... et notamment à la fin, à cette magnifique sculpture du Bernin qui sculpte dans le marbre le mouvement qu'a Daphné en se métamorphosant pour échapper au rapt, à la rafle d'Apollon.
Oui, oui, c'est tout à fait. C'est ce mouvement. Oui, c'est un personnage en mouvement, et malgré tout, et en même temps, nous, on sait finalement, puisque c'est mêlé avec la grande histoire, quoi, une histoire que tout le monde connaît normalement. On sait que ce qui est en marche est tragique, quoi. Mais donc, sans doute, c'est ce. Elle essaye, elle résiste, oui.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le personnage qui a inspiré Ita?
J'ai l'impression que finalement, ça tourne beaucoup quand même autour de la parole et du fait du fait de raconter, quoi. C'est presque, j'ai l'impression, je me rends compte un tout petit peu maintenant, hein, c'est long quand même avant de s'en rendre compte pourquoi on écrit un texte, quoi. Je ne sais même pas si on peut vraiment s'en rendre compte un jour, mais c'est presque quand même un peu une espèce de mise en abîme du travail de l'écrivain, quoi. Ça fait vraiment écho avec moi, profondément, Guillaume en train d'écrire, quoi. Avec la nécessité de raconter, quoi. Il faut raconter, il faut écrire pour vivre. Et là, il y a beaucoup ça. Ita le dit beaucoup. Enfin, où son père lui dit, il faut que tu racontes. Si un jour le monde veut te changer en statue de sel, raconte. On manque quand même beaucoup de paroles actuellement, quoi. En général, partout, ou alors on entend des paroles qu'on ne comprend pas ou qui sont folles, qui ont un brouhaha ou beaucoup de folie quand même, partout, quoi. Donc oui, c'est raconter et faire émerger une parole qui ait du sens, quoi, ou plusieurs sens justement, qui ne ferment pas les sens, quoi.
Mais une seule voix pour dire l'indicible.
Vous voulez dire qu'il y a c'est le personnage d'Ita qui parle, c'est
oui.
Elle, oui, oui.
Et elle parle à la première personne et elle parle au présent.
Oui, complètement, en convoquant en même temps d'autres voix, puisqu'elle convoque quand même les voix d'autres voix, de ses parents, de son oncle, sa tante, elle fait entendre les autres. Mais c'est à partir d'elle, à partir de son corps, hein. D'une voix, oui.
Est-ce que vous considérez alors que les mots sont une manière de rendre présents les absents, de les faire vivre envers et contre tout, de les laisser en mouvement envers et contre toute pétrification liée à, par exemple, une identité. En l'occurrence, elle vit dans un monde où être juif, c'est être condamné à être étranger partout et être finalement raflé.
Oui, oui, tout à fait. J'ai perdu le début de votre phrase. Finalement.
Alors je disais juste que il m'a semblé, mais c'est une question, hein, même s'il n'y a pas de point d'interrogation à la fin, que la puissance des mots était pour vous une manière de redonner vie aux absents. Est-ce qu'on peut dire ça au sujet de votre texte?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Oui, c'est quand même un peu lutter contre un effacement, quoi. Quand on écrit, oui, il y a ce qu'on appelle une écriture, hein, on écrit sur une page blanche, quoi. Donc, oui, tout à fait. Ouais.
Et la page blanche, c'est aussi le silence. Il y a dans vos choix d'écriture, aussi bien dans l'appeler que dans ce texte, Esprit de sel, Guillaume Viry, une place faite au silence.
Oui, oui, oui. Bah, à nouveau, pour essayer de. À la fois comme dessin sur la page, hein, j'aime bien, enfin, ça me plaît que la page, oui, c'est comme un dessin quand même. Et puis pour essayer de, c'est ma manière, d'essayer de faire entendre les mots, oui. J'ai l'impression que pour qu'on puisse les entendre véritablement, il faut du silence pour que les choses résonnent. C'est une histoire de musique, oui, vraiment. De musicalité, quoi. Pour en entendre les notes, il faut du silence, oui, c'est sûr, c'est certain.
C'est-à-dire, vous considérez un peu l'écriture, le texte, comme une partition ?
Totalement, oui. C'est ça qui m'intéresse avant tout, oui. Enfin, j'ai l'impression, oui. C'est d'écrire comme, que ce soit de la musique, enfin, comme un chant, comme...
Comme un cri aussi,
parfois. Un cri ou une prière, ou comme, oui, ça, oui, que ça arrive à ce stade-là de choses, oui, tout à fait. Oui.
Alors, puisqu'on parle de musique, faisons une petite pause musicale avec celle que vous avez choisie. On écoute Leonard Cohen.
I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last. Accounts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach, except that the goal falls short of the reach.
Leonard Cohen à 10h22 sur Aligre FM 93.1. Vous êtes à l'écoute d'Au fil des pages, Nadia Taïeb au micro. Et depuis ce matin, 10h, je reçois Guillaume Viry pour son récit poétique « L'esprit de sel ». C'est le deuxième récit publié aux éditions du Canoë. Il y est question de l'histoire d'Ita, histoire inspirée par une histoire vraie. Celle d'Ita Zitenfeld, jeune juive prise dans la rafle du Veldiv et dont Laurent Joly avait raconté l'histoire aux éditions Grasset en 2022. L'histoire, elle est très présente dans votre récit, Guillaume Véry, et en même temps, elle est absente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date. Elle est présente en creux à travers quelques éléments, par exemple... La police à Paris, les regards insistants sur Ita, dont on ne sait pas s'ils sont liés à sa beauté, si ce sont des regards de séduction ou des regards destinés à sonder son identité réelle. Comment abordez-vous l'histoire en tant que qu'écrivain, romancier, poète ?
Ben, j'essaye en fait que... Enfin, en tout cas, finalement, comme là, cette histoire est à nouveau très connue, comme la guerre d'Algérie, on l'étudie voilà, à l'école. Il me semble que ce n'est pas nécessaire qu'on peut être justement dans les creux, quoi, et surtout dans l'intime, dans des petites choses, enfin, dans des choses quotidiennes, concrètes. Voilà. C'est pas nécessaire. Effectivement, par exemple, quand elle est à Paris, il n'y a pas le mot Paris. Je n'écrivais pas qu'elle est à Paris. Je nomme pas à Paris, mais en même temps, on comprend qu'elle est à Paris. Quoi.
Il y a la Seine.
Oui, il y a la Seine, voilà. C'est juste un petit...
Juste ça.
J'aime bien, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, que le texte accède à... quelque chose d'universel, en fait, aussi. Voilà. Même, évidemment, que je parle là de la catastrophe quoi, particulière de ces années-là. Mais j'ai l'impression que ça résonne aussi avec d'autres tragédies. Quoi. Comme l'appelait précédemment l'autre texte sur l'Algérie, pouvait résonner avec d'autres guerres terribles. Donc, pour ça, il ne faut pas être trop... Enfin, évidemment, il faut faire attention aux faits quand même historiques. Je n'ai pas rajouté de choses de la grande histoire qui seraient erronées. Mais sinon, non, c'est surtout oui, s'intéresser aux personnes, en fait. Quoi.
Et c'est aussi, me semble-t-il, laisser une place au lecteur ?
Oui, tout à fait, oui. Comme ça qu'il puisse vraiment essayer d'imaginer... Enfin, qu'on soit dans l'évocation. Par exemple, très concrètement, au début, il y a la première partie du livre se passe en Pologne, à Sieradz, qui est une petite ville, machin. Je n'y suis jamais allé et je ne me suis pas tellement renseigné, à vrai dire. par contre, ce qui m'intéressait, c'était de le sentiment, quoi, voilà, de pas pouvoir vendre de harengs pour le père d'Ita, enfin des choses très concrètes en fait, de pauvreté, de qu'est-ce que c'est qu'être pauvre, enfin qu'est-ce que c'est qu'être pauvre, j'en sais rien, une grande question, mais oui, que ça soit concret et à nouveau sans, oui, pour laisser de la place au lecteur aussi, c'est sûr. Oui.
On sent la pauvreté, on sent la peur du lendemain. On sent aussi l'amour, l'affection, et il y a une place pour le rêve du départ. Et puis il y a surtout une grande place pour la transmission, qui semble une transmission minimale, mais qui est tellement importante. Et il y a ce dé que Pessa donne à sa fille Ita, en lui disant de le garder toujours comme un talisman.
Oui, oui,
c'est dé à coudre, hein, elle, je
c'est
précise.
Tout à fait un dé à coudre, c'est ce qu'elle lui dit en lui disant, voilà, sa mère, Pessa, lui dit, sentant la catastrophe arriver, l'obligation du départ, l'obligation, voilà, il y a la montée de l'antisémitisme en Pologne, l'obligation de quitter le pays, et à un moment, c'est sûr, quand on quitte un pays dans voilà, l'exil, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien trouver un travail dans un autre pays, après, c'est concret quand même. Et donc sa mère lui donne, enfin lui dit peut-être avec ce dé, bah tu pourras peut-être, enfin pas peut-être, elle pense qu'elle pourra toujours travailler, trouver du travail, quoi. Et donc s'en sortir, que ça
soit. Et coudre.
Et voilà, coudre, voilà, retisser quelque chose. Oui.
Avec tout ce que ça implique d'ironie tragique que d'avoir à coudre quand on est juive polonaise et qu'on se retrouve seul dans une chambre de la rue des Rosiers.
Oui, oui, tout à fait.
Et en même temps, il y a chez Ita, telle que vous l'approchez et nous la donnez à entendre, une forme de liberté absolue, puisqu'elle refuse de coudre les toiles jaunes qu'on lui demande de coudre sur son vêtement.
Oui, 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 totalement, d'un espèce de, je sais pas, de force, de courage, d'affranchissement total. Je m'en suis rendu compte après, en fait, oui.
Ça, c'était dans l'histoire rapportée par Laurent Joly, ou
non,
bien c'est vous?
Non, c'est moi. Ouais.
Vous en avez fait une rebelle, jusqu'au bout.
Ouais, voilà. C'est absolument pas conscient, hein. C'est que je sais pas, elle devait être comme ça. Oui, oui, mais maintenant, c'est vrai que ça résonne avec oui, oui, une figure comme ça de femme très, très libre, pas, malgré la, oui, la catastrophe, en tout cas, qui essaye vraiment comme ça. Ouais.
Alors, on peut peut-être lire un second extrait, Guillaume Viry, que vous avez choisi de nous faire entendre de ce texte.
Demain, je devrais partir. Quitter, je le devrais. C'est écrit sur un petit papier blanc. C'est écrit séjour provisoire. Demain, à nouveau, je partirai. Mais ce soir, je m'endors sur le sable de la mer du Nord. Je me réveille. Je dois partir. Je me lève. Je marche. Vite. J'enlève le sable sur les pieds. J'enfile les chaussures. Je marche le long de la digue déserte. Le soleil n'est pas encore levé. Je cours. Une seule idée dans l'intérieur de mon crâne. Je cours. Une seule idée. Trouver un bateau. Un petit. Un grand. Trouver un bateau et partir. Partir là où la vie est possible. Traverser la grande mer. Retrouver Joseph. Les bateaux sont là. À quelques mètres. Je cours. Ce sont des petits bateaux. Ce sont des hommes sur les petits bateaux. Je cours à travers les pontons. Je demande. Je dis à un homme. L'Amérique. L'Amérique. Je fais des gestes vers l'horizon. L'homme ne répond pas. Je demande, je dis à un autre homme, l'Amérique, l'Amérique. Je fais les mêmes gestes vers l'horizon. L'homme ne répond pas. Je ne cours plus. Je crie. Je crie à l'ensemble de tous les hommes. L'Amérique, l'Amérique. L'ensemble de tous les hommes sourit. Alors je ne crie plus. Je hurle. Je hurle à l'ensemble de tous les hommes. L'Amérique, l'Amérique. L'ensemble de tous les hommes rit.
Aligre FM 93.1.
Voilà un extrait de L'Esprit de sel, lu par l'auteur Guillaume Viry sur Aligre FM. Guillaume Viry, pourquoi avez-vous choisi cet extrait? Est-ce parce que il a justement une une résonance universelle. Alors c'est vrai que c'est un peu moi qui l'ai choisi, mais c'est vrai, excusez-moi, je vois que vous me faites signe en me rappelant ça, mais c'est vrai. J'avais oublié. Alors moi je sais pourquoi je l'ai choisi. Vous, en le lisant et en l'écrivant, et, qu'est-ce qui vous semble important dans ce passage? Avez-vous eu le sentiment, je vais préciser un peu ma question en l'écrivant, que quelque chose du présent, de notre présent, vibrait dans ce moment, dans ces bateaux, ces petites embarcations, dans ce besoin compulsif de partir et dans cette Amérique qui rit?
Oui, c'est en écrivant, j'ai pas pensé à aujourd'hui. Mais en tout cas, et puis là, l'Amérique, ça devient comme, comment dire, à nouveau, pour moi, c'est pas tellement, enfin, je sais pas ce que ça veut dire, que l'Amérique, c'est une espèce de...
De rêve.
Oui, voilà, ça veut dire le rêve, c'est ou la chanson de...
De Joe Dassin.
Ouais, voilà, c'est ça, quoi, ouais. C'est une espèce de mythe de terre...
Promise.
Oui, voilà.
Où Joseph est parti.
Où son amour, là, Joseph est parti et elle ne peut pas pour l'instant partir, voudrait partir. Voilà.
Et où Joseph est devenu John. Vous soulevez aussi par ce détail la question de l'identité, de l'absence à soi-même, du reniement de soi. C'était...
Oui, d'être obligé tout d'un coup de... Enfin, c'est aussi de... Je ne sais pas comment on dit de... L'assimilation, c'est ça? Je sais pas.
Oui, la question de l'assimilation, non, mais c'est important parce que les États-Unis ont été un refuge, bien sûr, mais les États-Unis n'étaient pas et ne sont pas exempts d'antisémitisme. On l'oublie parfois. Si on pense par exemple à la période du McCarthyisme, l'antisémitisme américain était très présent.
Tout à fait, oui.
Et donc, il m'a semblé que ce détail que vous glissez, tout est choix, je ne pense pas que ce soit inconscient, rappelait aussi combien finalement le salut des Juifs passait aussi, même aux États-Unis, même en ayant échappé au pire, par le reniement de son identité.
Ouais, oui, c'est ça que ça raconte, ouais. Effectivement.
Alors vous parliez tout à l'heure de la portée universelle de votre récit. Qu'est-ce qui est universel dans votre récit et intemporel, et qu'est-ce qui résonne de l'histoire dans notre présent selon vous?
Bah là justement, si on revient à ce passage que je viens de lire, voilà, avec ces bateaux, des petits bateaux et ce désir d'un ailleurs où la vie serait possible, ça c'est toujours absolument contemporain, partout dans le monde entier, quoi. Enfin, en tout cas, oui. Et c'est toujours aussi terrible. À nouveau, je ne me suis pas tellement rendu compte en écrivant le texte, mais c'est maintenant que je me rends compte vraiment à quel point c'est absolument... toujours d'actualité dans beaucoup de régions du monde, et ça le sera de plus en plus.
Et en même temps, c'est un texte qui, dans la description des gestes et des regards, fait une place importante au savoir-faire de Jacob, qui vend des montres, de Mendel, qui vend des harengs, comme si l'ultime refuge dans les moments où l'histoire s'emballe, était dans des activités manuelles qu'on maîtrise, alors qu'on ne maîtrise pas l'histoire en marche.
Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, des activités qui c'est avec les mains, en fait. Ouais. La couture, les montres, d'ailleurs. Oui, on parle pas souvent, beaucoup des mains. Et, bon, l'écriture aussi, c'est quand même avec les mains, quoi. Et ça, c'est quelque chose. Je pense que c'est très important, oui, d'arriver encore à. De continuer à travailler, en fait. Malgré toutes les difficultés, malgré la tragédie, comme ça, en mouvement, il faut continuer à travailler, c'est ce qui fait tenir. C'est quelque chose, moi, qui m'émeut toujours beaucoup, même quand je vois. On le voit beaucoup chez les enfants, par exemple, quand on voit un enfant occupé à une activité souvent parfois manuelle comme ça et absolument dans une concentration totale, je trouve ça toujours très très émouvant, quoi. Oui, ça permet de survivre, je pense.
Et Toute cette histoire d'Ita, jeune juive polonaise jetée sur les routes, c'est aussi l'histoire d'une étrangère à l'endroit de sa naissance, je vous cite, d'une éternelle étrangère finalement à partir du moment où elle part sur les routes. Chaque étape, Bruxelles, Ostende, Gdansk, Paris, échoue à trouver un ancrage. La question de l'exil est très présente. L'exil pensé comme ce que Abdelmalek Sayed appelait une double absence, absence dans son pays, absence dans les pays refuges.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'elle ne trouve jamais d'endroit. Ouais. Il y a l'obligation de quitter d'abord son lieu de naissance, qui est quand même compliqué, quoi.
Mais quel désir en même temps, enfin, avant d'y être forcé, c'est d'abord le rêve du départ,
oui,
de la découverte,
pour
des horizons.
Pour la, oui, voir la mer, ou voir une ville un peu plus grande, mais quand même malgré tout toujours dans son pays ou dans, avec sa langue. Avec, voilà. Mais là, les voyages, c'est des voyages forcés, quoi, d'exil, dans des conditions difficiles, quoi, où elle doit se cacher dans un camion, où voilà, il faut passer les frontières. En fait, ça, c'est quand même très compliqué. Ça résonne vraiment avec aujourd'hui, quoi, malheureusement. Et après, effectivement, mais il y a toujours, j'ai l'impression quand même, il y a toujours cet espoir de, à chaque fois, quand elle arrive en Belgique, que peut-être elle pourrait... D'ailleurs, elle demande à y rester, en fait, quoi.
Elle se marie.
Et puis...
C'est un mariage blanc.
Après, en France, oui, elle essaye de se marier, oui, tout à fait. Donc, à chaque fois, il y a des tentatives vraiment pour rester, quoi. En disant, d'ailleurs... puisqu'en plus, elle travaille, voilà, il n'y a pas de... Elle n'est pas... C'est pas une... quelqu'un qui est... porte atteinte à l'ordre public, quoi. Je ne sais quoi. C'est, elle est, et malgré tout, non, ça ne marche pas. Oui, oui, elle est toujours... Il y a une phrase dans le texte, ça me fait penser à une phrase, oui, où à un moment, là, c'est l'administration française qui lui dit, voilà, qu'elle fait partie de ces étrangers qui cherchent à se fixer par tous les moyens, et, je ne sais plus le mot exact, en tout cas, par tous les moyens en France, voilà. Et on lui refuse, oui, de...
On lui refuse à plusieurs reprises.
Plusieurs reprises, oui, il y a toujours ces refus. Elle se heurte comme ça à ces refus. Et donc, le rêve de l'Amérique qui grandit de plus en plus, puisque finalement, il n'y a plus que là, peut-être, où ça serait possible, en fait. Alors que la France était... Avant de partir en France, on lui dit... Enfin, il y a une espèce comme ça de ritournelle qui tourne. On lui dit que la France, c'est le pays où l'homme est heureux comme Dieu. Et ça n'a pas été le cas.
Oui, c'est une France où quelque chose se prépare aussi que vous donnez à... que vous évoquez plus que vous ne le décrivez. Et ça passe aussi par les regards. On a l'impression d'un monde où chacun scrute l'autre. Le regard est souvent présent dans votre récit. Vous froncez les... vous froncez les sourcils étonnés. Je vous assure, le regard est très présent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a permis de rendre cette atmosphère tendue de suspicion, de peur de l'autre, de trac aussi, qui gagne un pays, qui bascule dans l'horreur de désigner une ethnie comme cible?
Oui, oui, c'était le... Mais en plus, Ita, le personnage, voilà, ne parle pas français, ou très, oui, très peu, j'imagine, très quelques mots. Donc, tout devient... quand on ne parle pas la langue dans un pays, on est quand même beaucoup plus attentif aux signes, aux réactions physiques. Effectivement, au regard de l'autre, ça passe beaucoup plus par ça, en fait. Et... À nouveau, oui, c'est la tentative d'essayer de rendre ça très concret, parce que je pense que c'est très concret, quoi. Et ça rentre dans les corps, quoi. Cette peur, comme ça, et cette traque, finalement, oui, qui commence à s'organiser, l'obligation, après, de porter l'étoile jaune. Il y a quelque chose comme ça qui monte et qui... un peu dans une sorte de silence d'ailleurs, où c'est oui. Une angoisse qui monte dans le silence, ouais, finalement.
Il y a cette scène à nouveau qui m'a marquée, hein, où trois policiers français observent Ita penchée sur la scène qu'elle contemple. C'est une scène d'une très grande intensité. J'essaie de la retrouver tout en vous parlant. J'aurais voulu qu'on la lise parce que c'est une scène qui dit en très peu de mots, très fort, justement cet instant où tout peut basculer. Alors, je ne sais pas si vous l'avez.
Si, je l'ai retrouvée.
Alors, on peut peut-être la faire entendre.
On peut, voilà.
Sur Aligre FM 93. On m'a dit qu'il fallait rappeler qu'on était sur Aligre FM 93 toutes les 20 minutes.
Je marche, rien de jaune sur ma poitrine. Je marche, je m'offre entièrement au danger des rues de la grande ville. Je ne parle que quelques bribes de français. Il suffira qu'on vienne me parler pour que l'on m'arrête. Mais je marche dans les rues de la grande ville. Je n'ai plus de vélo. Je marche. J'arrive sur une grande place. La Seine me fait face. Je m'approche, je m'accoude sur le muret qui borde le fleuve. Je regarde, je pense à Joseph, je pense à notre Gdansk, je pense à notre Amérique. Trois hommes s'accoudent à mes côtés. Ils sont jeunes. Ils parlent fort. Ils parlent français. Ils fument. Ils sont habillés en noir avec un képi sur la tête. Ils ont un revolver accroché à leur ceinture. Ils rient. L'un d'eux, le plus grand, me regarde. Je ne le regarde pas. Il me regarde encore. Alors les trois ne rient plus. Alors les trois me regardent. Je tourne la tête. Je les regarde. Ils se regardent. Ils échangent des mots français. Je les regarde. Ils ne parlent plus. Je les regarde. Le plus petit fait un mouvement avec sa tête. Il s'éloigne. Le moyen costaud et le plus grand me regardent, ils hésitent les deux, ils me sourient. Je ne sais pas ce qu'habite leur sourire. Ils partent.
Aligre FM 93.1, vous êtes à l'écoute d'Au fil des pages. Guillaume Viry est mon invité depuis ce matin à 10h pour parler d'un très beau et très puissant récit poétique, L'esprit de sel, qui relate l'errance, l'exil d'Ita, juive polonaise, jetée sur les routes, restée seule après avoir vu le départ des siens. Et confrontée à une vague brune de plus en plus inquiétante, menaçante, mortelle. Guillaume Viry, on parlait hors antenne de la résonance qu'a ce récit avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, mais vous me disiez qu'en écrivant le texte, vous étiez détaché de cette actualité-là, vraiment plutôt plongé dans l'envie de donner une voix et de redonner vie à une existence fauchée.
Oui, oui, quand on écrit, enfin en tout cas moi quand j'écris, oui, je suis plus très, j'entends pas vraiment le monde, ou peut-être autrement, mais je sais pas. Non mais oui, j'étais complètement habité par cette voix en fait, j'ai écrit le texte habité, oui vraiment, complètement comme ça, dans un mouvement, sans m'arrêter, tous les jours, il fallait que la voix parle, voilà, à partir du moment où j'étais lancé, à partir du moment où j'ai vu, oui, à nouveau, cette façade du 35 de la rue des Rosiers, que j'imaginais cette femme, voilà, y habitant 80 ans auparavant, et donc, effectivement, non, j'ai pas pensé aux résonances contemporaines. Aussi peut-être parce que quand j'ai écrit le texte, maintenant, ça fait, parce qu'il y a toujours un temps avant l'édition d'un texte, enfin l'écriture, tout ça, donc ça fait plus d'un an, deux ans. Donc peut-être que on a encore passé des stades d'horreur, d'absurdité, de folie dans le monde contemporain. Actuellement, aujourd'hui, c'est quand même de pire en pire chaque jour, j'ai l'impression. Donc oui, effectivement, ça résonne, oui, avec aujourd'hui.
Et en même temps, ça reste un moment singulier de notre histoire et une histoire singulière que celle de cette jeune juive polonaise qui finit dans cette petite chambre du 35 rue des Rosiers, seule, totalement seule face à la barbarie.
Je vous en prie. C'est sûr, c'est une chose qui m'a frappé quand j'ai lu. Évidemment, j'avais connaissance de la rafle du Vélodrome d'hiver, mais en relisant le livre de Laurent Joly, ce qui est quand même très très frappant. Ce qui m'a frappé, c'est que ce sont des policiers français qui ont organisé la rafle. C'est pas des Allemands. Contrairement à certaines voix d'ailleurs contemporaines que j'ai entendues qui essayent de faire croire que les Français n'ont rien fait, je sais pas quoi. Il y a encore des gens qui essaient de réviser l'histoire, enfin de raconter des bêtises. Mais donc oui, ça m'a quand même, c'est une chose qui m'a absolument vraiment frappé profondément, de me dire que c'était des Français, oui. Comment est-ce possible, quoi ?
Donc ça fait deux récits très puissants qui puisent dans les plaies de notre histoire.
Oui, oui, c'est ce que je me suis dit après coup, en fait. Oui, effectivement,
après la plaie, que
la plaie
avez...
sur la guerre d'Algérie, où je me suis posé la même question, comment est-ce possible ? Comment avons-nous pu nous comporter comme ça en Algérie ? Et là, pareil, c'est la même question, en fait. Comment est-ce possible que des hommes français aient pu commettre ça, voilà, aient pu organiser et réaliser cette rafle ? C'est sans réponse.
J'ai pas de réponse. La réponse, c'est le livre, c'est le récit,
voilà,
c'est la poésie.
C'est abyssal
tragique
comme question. Et voilà, c'est qu'on est aussi capable de ça, quoi. Les hommes sont aussi capables de ça. Ouais.
Alors la réponse, c'est ce récit poétique dans lequel il n'y a pas de ponctuation. C'est une espèce de long monologue en mouvement, avec une langue tantôt très fluide, tantôt très répétitive, comme si elle épousait justement les mouvements de l'histoire, d'une histoire qui parfois se répète. Mais aussi les vaines tentatives d'Ita pour ne plus être étrangère, en partant sans cesse. Est-ce que votre fascination et votre questionnement sur les temps sombres de notre histoire sont absolument nécessaires à votre écriture, Guillaume Viry?
Ah, je ne sais pas encore. En tout cas, là, ils l'ont été... Enfin, après, c'est pas à nouveau, c'est pas conscient. Hein. Je me dis pas avant d'écrire, oulala, je vais écrire sur tel moment. C'est que les choses arrivent et...
C'est des rencontres.
Ouais, c'est vraiment mystérieux, franchement. C'est pas, faut pas faire les malins et se dire, j'avais un plan. Et oulala, je me suis dit que je vais écrire sur tel ou tel sujet. Enfin, moi, non, c'est le sujet qui arrive, en fait, qui m'arrive et qui me traverse. Et après, il y a une...
Une envie,
je ne sais même pas si c'est une envie, c'est une espèce de nécessité. Il y a quelque chose qui doit s'écrire, en fait, qui est en moi et qui doit s'écrire. D'ailleurs, c'est en fait presque l'inverse, c'est que j'ai l'impression que c'est déjà écrit en moi et que je dois juste le traduire ou le passer quoi, sur la feuille. C'est un peu... je ne sais pas si c'est très net ce que je dis. Très clair. Non, mais vraiment, oui, j'ai l'impression que c'est déjà écrit, en fait.
Et est-ce que c'est un texte qui pourrait être porté au théâtre ?
Oui, j'espère qu'on pourra. En fait, il a déjà reçu une aide d'Arsena, le Centre National du Théâtre, l'aide nationale à la création, pour être joué au théâtre. Donc, on va essayer de que ça soit le cas, voilà.
Mais ça supposera une réécriture ou pas du tout ?
Non, j'ai l'impression que non, qu'en fait ça tient en essayant déjà, avec Maud Villers qu'il a déjà lu plusieurs fois, que ça marche comme ça, tel quel en fait. Avec, ce serait juste avec une interprète en fait, Ita, voilà, qui interprète, qui donne à entendre toutes les voix qu'il habite. Ouais, ouais. Mais en tout cas, oui, ça serait une possibilité, ça serait formidable, j'aimerais beaucoup. Ben, ça me permettrait aussi au texte d'avoir encore une autre... vie, ouais, vraiment. Ouais,
ce fut le cas pour l'appeler.
Et l'appeler aussi, on essaye de le... C'est en cours pour le théâtre, ou pareil, on a aussi une aide, voilà. Mais après, voilà, il faut trouver des lieux qui nous accueillent.
Et quelle diction, quel jeu attendez-vous d'une comédienne qui incarnerait... la voix et les voix d'Ita, vous qui êtes comédien et qui êtes un homme de théâtre, Guillaume Véry.
Ah, je sais pas, c'est un peu compliqué à dire comme ça dans l'absolu, mais non, j'ai l'impression que c'est pas, comment dire, que le texte est assez, relativement suffisant, enfin, suffisant, qu'il faut le dire, voilà, et respecter la manière dont il est écrit, avec ses retours à la ligne, ses blancs, et tout ça, parce que moi-même, en fait, en l'écrivant, je l'ai beaucoup écrit, enfin, j'écris beaucoup à haute voix, enfin, en tout cas, après, je me l'ai dit, les textes, très rapidement, quoi. Donc, c'est déjà porté par quelque chose d'oral, de... J'ai l'impression que pour que la lecture soit passionnante, ou, voilà, il faut qu'elle puisse être aussi jouée, enfin, dite, que les deux sont liés, en fait, pour moi, vraiment, que c'est pas séparé du tout,
Pas trop de jeu, plutôt une lecture finalement.
Bah en tout cas, il y a quelque chose sans doute d'une pudeur et d'une modestie et d'une oui, évidemment d'une absence absolue de pathos, de sensiblerie, voilà, il faut être un petit peu, le sujet est déjà tellement fort et tellement terrible que il faut, oui, quelque chose comme ne pas montrer la... Bon, de toute façon, le jeu d'acteur, c'est quand même souvent ça, à mon sens. C'est cacher les choses plus que les montrer. Il faut les cacher, quoi. C'est ça, jouer. C'est pas... Donc ça, là, c'est pareil, c'est cacher la... Ne pas montrer la douleur, il faut tenir. Il n'y a pas de... Oui, en fait, ça serait... En tout cas, peut-être un fil directeur, c'est une absence de plainte dans le jeu, quoi. Mais comme il y a une absence de plainte de la part d'Ita, du personnage, quoi, il ne faut pas se plaindre, quoi. C'est pas possible. Et c'est comme ça que ça pourra être émouvant pour les spectateurs. Ouais.
Alors, on peut peut-être donner un dernier aperçu du texte, L'Esprit de sel, Guillaume Véry, puisque nous parlons de son interprétation. C'est un extrait qui se situe vers la fin, au moment où la menace se précise.
Je suis assise sur la chaise en bois de la petite chambre. Je regarde l'étoile sur le morceau de tissu jaune. Je lis l'inscription sous l'étoile. Je lis. Juif. Je pose le morceau de tissu sur la petite table en bois. Je pense à Mendel, je pense à Pessin, je pense à Noharan. Ils ne sont rien de plus que rien, comme l'ensemble des hommes. Je ne suis pas celle que vous croyez que je suis. Je ne suis pas celle que vous voulez réduire à votre risible morceau de tissu jaune. Je suis celle qui échappe. Je suis celle qui n'a fait qu'échapper. Je serai toujours à l'endroit où vous ne m'attendrez pas. Je serai toujours dans un lieu secret. Cet endroit où jamais vous ne pourrez me trouver. Où jamais vous ne pourrez venir me contrôler. Cet endroit n'est pas même Sieratz. C'est un lieu secret. Un espace secret. Jamais vous, jamais personne ne pourra l'atteindre. Détruisez tant que vous le pouvez. Embarquez-moi dans vos autocars. Entassez-nous dans vos trains. Jamais vous ne pourrez atteindre ce qui m'appartient. Jamais vous ne pourrez clôturer cet espace secret. Cet espace ne se prend pas. Mendel l'a dit, Mendel me l'a dit. Si un jour le monde veut te changer en statue de sel, chère Rita, si un jour le monde entre dans sa folie blanche voulant te rendre paralysée, ce jour-là ne l'oublie pas. Raconte. Je serai toujours les mots. Je vivrai, même morte je vivrai. Je serai toujours les mots, ceux-là même qui vous sont tellement étrangers. Encerclés, encerclés, encerclez-moi tant que vous pouvez, encerclez-moi. Jamais vous n'atteindrez l'immense espace secret qui est le mien.
Merci Guillaume Viry, on va se quitter sur cette très belle lecture de L'Esprit de Sel, c'est aux éditions du Canoë. Merci d'être venu en parler ce matin au micro d'Aligre FM.
Merci beaucoup à vous.
L'émission arrive à son terme, elle est un peu écourtée aujourd'hui exceptionnellement, pas de chronique d'Anouk Haït Wada. La semaine prochaine, vous retrouverez une rediffusion, nous vous proposons d'écouter une rediffusion d'une émission de Thierry Gilibeuf consacrée à Tocqueville, dont il faut parler en ces temps obscurs. Et dans deux semaines, notez bien, nous recevrons l'écrivain journaliste Jean-Paul Kaufmann. J'aurai le plaisir d'être en compagnie de Thierry Gilibeuf. Merci à Philippe Donnefort et Enrico Mastrogiovanni qui étaient ce matin en régie. L'émission sera bientôt disponible en podcast sur le site d'Aligre FM, www.aligrefm.org. Pas de scène de la semaine non plus aujourd'hui. On retrouve Eric Dotter la semaine prochaine. À très bientôt sur l'antenne d'Aligre FM 93.1. Restez à l'écoute de nos programmes.
Aligre FM 93.1.